Some people claim that I'm born to play, cause I'm your iced tea on a sunny day. I make the goers come, the leavers stay, I make the lovers kiss and the workers play.
Et ça c'est pas du tout YouTube. Alex Jordanov, on entend Ice T avec The Coldest Rap qui date de 1983. C'est une période que vous avez connue et une chanson que vous avez entendue de près, si je puis dire.
Ah bah, j'ai trouvé par hasard ce disque chez un disquaire dans le ghetto de Los Angeles. À ce moment-là, on cherchait des artistes. Il y a très peu d'artistes de rap, quasiment pas. Et on cherchait des artistes pour qu'ils puissent venir faire des showcases dans cette fameuse boîte de nuit. Et j'ai vu le label, Coldest Rap. Je me suis dit, ça doit être du rap, parce qu'il n'y a pas de section de rap à l'époque. Il y avait du R&B, du rock. Et sur ce label, est-ce qu'il avait autoproduit, autopressé, autofinancé dans un petit atelier? Il y avait un numéro de téléphone de la maison de disque. Et j'ai appelé ce numéro pour trouver Ice-T, et en fait c'est lui qui répond, puisqu'il il est
dans le garage de sa grand-mère, c'est ça?
Sa tante.
Et donc je lui dis, voilà, il faut qu'on peut se rencontrer, etc. Et il m'a dit, pas de problème, et c'est comme ça que je l'ai rencontré, dans le garage de sa tante. Comme moi, il n'avait pas de famille, de parents, etc. Donc il avait trouvé refuge après l'armée, il n'y avait pas de place dans la maison, c'était plein. Donc on lui avait donné un canapé dans le garage de sa tante.
Une des anecdotes, évidemment, de ce Radio Club, livre qui est plein d'anecdotes, puisque votre vie que vous racontez en toute petite partie, puisque ce n'est pas votre autobiographie, c'est une autobiographie de votre jeunesse, on va l'appeler comme ça, hein, ce sont vos 20 ans et quelques, ça se poursuit un petit peu après, mais...
19...
Oui, même pas vos 20 ans d'ailleurs, au début.
Teenager.
C'est vraiment cette période où vous êtes à la fois universitaire en mathématiques à UCLA, et à la fois toutes les nuits sur le pont, et même pas seulement les nuits, parce que vous êtes squatté jour et nuit par plein d'amis de rappeurs et de gens de la musique. C'est une aventure complètement incroyable, puisque vous avez été au cœur, mais vraiment au cœur, de la révélation, en fait, de ce rap de la côte ouest.
Mais alors, universitaire, c'est un bien grand mot. Hein. C'est-à-dire que
vous étiez quand même
inscrit. J'avais la chance d'avoir une carte de séjour, c'est-à-dire d'être résident de l'État de Californie, et les universités d'État, telles que Berkeley ou UCLA, sont gratuites. Mm-hmm. Donc, avec les unités de valeur, on y allait à son rythme. Je ne mélangeais pas beaucoup boîte de nuit, chaos ambiant et mathématiques. Mais petit à petit, on est arrivé jusqu'à la maîtrise.
C'est pas si mal, quand même.
Il y a du chaos dans les mathématiques aussi, donc voilà.
Ben oui, c'était un peu plus fouillis que ingénieur. C'était un peu improvisé, du freestyle.
Ouais, mais c'est improvisé, bien vu, parce que en fait, l'endroit que vous allez choisir, qui n'est pas à vous malheureusement, et vous allez vous rendre compte après, c'est pas forcément un cadeau. Vous le louez au départ. C'est une espèce de théâtre abandonné, et vous allez en faire the place to be.
On s'y attendait pas. Mais a posteriori, quand on y réfléchit, c'est vrai que beaucoup de gens très créatifs sont passés par là, et ça leur a servi de passerelle à des carrières assez impressionnantes. Ouais.
On parle notamment des Red Hot Chili Peppers qui sont présents dans cette bande dessinée.
Oui, mais ils étaient déjà dans notre vie de tous les jours. Par exemple, je partageais avec le chanteur Anthony des jumelles comme girlfriend à l'époque de teenager. Donc il y avait déjà un lien familial plus les autres. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Et donc en plus, ils avaient besoin d'un peu d'argent pour acheter de la drogue à l'époque. Donc ils travaillaient dans la boîte de nuit.
Raconter cette histoire aujourd'hui, ça a quel sens pour vous? Le sens d'un témoignage ou plutôt d'une peinture d'une époque révolue?
C'est surtout se rendre compte qu'il y a des amitiés qui ne s'abîmeront jamais, qui sont toujours indéboulonnables. Plus avec le bassiste des Peppers ou avec Ice-T ou avec les gens de Dr. Dre qui ont écrit The Chronic, le disque qui a vendu le plus dans l'histoire de la musique. Et donc tous ces gens-là, on peut ne pas se parler pendant 3 mois ou 3 ans. Quand on se revoit, c'est exactement pareil. Ça, c'est ça qui me fascine le plus. C'est qu'ils sont toujours là. Ils font partie de votre bulle et de votre univers. Ça, c'est sympa. Mmh. À vivre.
Il n'y a pas eu que des choses sympas. Vous racontez dans cette bande dessinée ce roman graphique qui a eu aussi la prison.
C'est vrai. Voilà. La prison, mais pour le coup, quand on a vraiment été en prison, j'étais pas pour grand chose. Hein. On m'a appelé pour venir les chercher.
Voilà, vous êtes arrivé avec la voiture et c'était pas le bonjour.
Pas le bonjour, donc on a été, mais après, bon. Vous savez, à cette époque-là, à Los Angeles, il y avait 1200 morts par an de meurtre de gang, contrairement au vin de Marseille. Donc c'est un endroit très dangereux, oui, avec beaucoup d'hélicoptères. Et donc Aistier avait beaucoup de relations, de relationnel dans ce quartier-là, qui s'appelait les Crips. Et une police corrompue, des juges corrompus, et finalement, on s'en est sorti avec un vice de procédure, et l'avocat a été payé avec 4 kilos de cocaïne. Qui sont nuls, les Crips. Voilà.
Tout ça est d'une moralité.
Mais c'était... Oui, non, mais c'est comme ça. Il y a prescription, maintenant, on peut
Ah, on sent bien que vous pouvez le dire, qu'à l'époque, vous n'auriez pas pu. Cynthia, qu'est-ce que vous avez lu Radio Club?
Moi, j'ai été absolument fascinée. On vous demandait tout à l'heure pourquoi la BD, mais heureusement, la BD, parce que je pense que c'est le roman graphique que j'aurais rêvé d'avoir entre les mains à 15 ans. Je suis l'enfant des années 90, donc toutes les personnes qui sont dans ces pages, des plus connues ou plus discrètes, elles font partie de ma playlist constitutive, si je puis dire.
Il n'y a pas que du rap.
Il n'y a pas que du rap, il y a du
passages...
rock. On voit passer Madonna, on voit passer Prince. Alors, on sait qu'il n'a pas joué à The Radio, mais voilà.
Michael Jackson.
Et on sait, vous avez raconté aussi que c'est peut-être plus anecdotique par rapport à toute la scène qui s'est effectivement produite tous les soirs. Mais moi, ce que je voulais vous demander, mais finalement, vous y avez peut-être déjà presque répondu là maintenant, c'était vous interroger sur la dernière image, en fait, de cette bande dessinée où vous retrouvez Ice-T un peu plus tard, qui est déjà sur sa pente ascendante, qui a enfin construit, acheté sa villa au sommet de la colline et qui vous montre sa cache secrète où il y a un mur entier de flingues de tous les calibres, de tous les modèles. Et il vous dit, il y en aura toujours un pour toi, mon frère, ou quelque chose comme ça. C'est une façon assez abrupte, assez frappante de terminer ce récit qui nous parle, ou qui nous dit qu'il va nous parler de l'histoire de la musique, de l'histoire du rap, d'une histoire d'amitié, d'une histoire de success story. Et en fait, vous terminez tout de même sur ce rappel de cette violence structurelle qui est là et qui va rester finalement dans ce milieu.
C'est le père du gangster rap, Ice-T, déjà, mais bon... Faut pas le prendre littéralement, hein. Ça fait partie du game, comme on dit.
C'est pour la para.
Oui, bon, Ice-T est par exemple le président de l'association des macros d'Amérique. Or, tous les ans, il est invité à Las Vegas avec tous les grands macros du pays en manteau de fourrure, avec 14 poules à chaque bras qui arrivent. Mais c'est un pur show. Il s'est essayé à la profession de macro. Un jour, la seule fille qui faisait travailler lui a volé sa voiture, donc on lui a dit d'arrêter.
Mais c'est ça qui est perturbant, c'est qu'il y a ce mélange tout le temps entre de la violence réelle que vous avez côtoyée, que vous avez vécue, et cette violence un peu, comme vous dites, d'apparat pour le show, où il faut continuer de raconter ça parce que ça fait partie de l'imagerie.
Non, je pense que c'est surtout, il tient ça de... Il était très fan d'un écrivain noir américain qui s'appelait Iceberg Slim, d'où il tient son nom, Iceberg. Donc, c'est beaucoup d'histoires du ghetto, de macro et de police. Et il tient cette imagerie de cet écrivain. Il a construit son image à travers ses livres. Ouais. Mm. C'est vrai, il lisait beaucoup. C'est comme d'autres rappeurs comme Chuck D ou Ice-T. C'est des gens qui ont fait l'armée ou qui ont été à la fac. Ce sont des gens qui sont structurés, qui ne boivent pas, ne prennent pas de drogue, qui sont à l'heure. Ça fait partie du personnage. Mais bon... S'il faut construire une image pour Hollywood, oui, pourquoi pas.
J'aimerais quand même qu'on parle de cet objet qu'est la bande dessinée.
Oui.
Vous disiez tout à l'heure y être arrivé un peu par hasard, mais vous êtes vachement bien tombé avec ce dessinateur.
Il est merveilleux. Ouais.
Il est incroyable parce qu'on reconnaît absolument tous les personnages, mais il n'y a aucune volonté d'être photographique. Il n'y a aucune volonté de dire « Ah, ben, je vais prendre le portrait et je vais en refaire mais l'exacte copie ». Au contraire, on est dans une espèce de suggestion de ce qu'ils sont.
Mais vous savez, ma fille, quand elle a regardé les premiers dessins, elle m'a dit « Il t'a fait ressembler à Gru. » J'ai dit « Gru, qui c'est celui-là » Donc j'étais voir Gru.
Gru et c'est mignon.
Oui. Donc j'ai dit « Ah bon, Gru, c'est que tu exagères un peu, non ?» Isabelle, tout à l'heure, racontait comment il travaille. Ça avait l'air assez... c'est un travail d'équipe. Il y a les coloristes, il se passe la narration, puis les personnages reviennent. C'est un peu comme il y a 35 ans, dans la boîte de nuit, on naviguait à vue, on se parlait en zoom. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, bon, je sais pas, peut-être on va lui faire dire ça. Chaque page a été improvisée quasiment.
Ouais, carrément.
Ouais, ouais.
Vous n'avez pas fait de scénario, pas fait de découpage.
On a fait un plan.
On a transmis des choses.
On a fait un plan, vague, même pas chapitrage, un truc un peu vague comme ça, et c'est sorti. Mais c'est un exercice fabuleux.
Ah ben oui, et comme je le disais, il est très réussi. Radio Club d'Alex Jordanov et Kay Clairo. West Coast True Story of Hip Hop. Et c'est paru chez Glénat. Merci d'être venu nous en parler.
La première, Galaxy BD.